Chapitre 19. Jésus se rapproche maintenant de nouveau de la Judée et les pharisiens reviennent à la charge. Ils soulèvent une question relative au mariage et au divorce, dans l'espoir de le prendre au piège. Ils échouent totalement, car ils se mettent aux prises avec la sagesse divine. Le renvoi à ce que Dieu a ordonné au commencement leur fournit une réponse complète. L'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Cela suscite dans leur esprit une question. Pourquoi le divorce a-t-il été permis dans la loi donnée par Moïse? La réponse est « à cause de la dureté de cœur des hommes ». Dieu connaissait bien celle-ci, aussi n'a-t-il pas placé le niveau trop haut. La loi présente l'exigence minimale pour la vie dans ce monde. Aussi faillir simplement une fois, c'était encourir la sentence de mort. Une seule chose peut dissoudre le lien selon Dieu, c'est la rupture de fait de l'union par l'une ou l'autre des parties. Ce n'est que lorsque nous venons à Christ que nous avons toute la pensée de Dieu, le maximum de Dieu à tous égards. L'enseignement du Seigneur quant au divorce était nouveau et surprenant, même pour les disciples, et provoque leurs remarques rapportées au verset 10. Et cela l'amène à son tour à déclarer que le mariage est la chose normale pour l'homme et que l'état de célibat est l'exception, comme aussi les paroles de Paul en 1 Corinthiens 7, verset 7, le laissent entendre. Si cet état de célibat est donné à quelqu'un, alors il est bon de ne pas se marier, mais dans le cas normal, que le mariage soit tenu en honneur. Hébreux 13, verset 4. Ensuite, le Seigneur donne aux enfants la place qui leur appartient. Les disciples manifestaient l'esprit du monde en les traitant comme quantité négligeable, allant jusqu'à estimer importun le fait de les amener. Ils montraient par là qu'ils n'avaient pas encore appris la leçon que Jésus leur avait enseignée dans les premiers versets du chapitre 18. Le Seigneur, au contraire, leur impose les mains pour les bénir et prononce les paroles mémorables « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. » Puis nous avons le cas du jeune homme riche qui prétendait avoir gardé la loi, tout au moins les commandements relatifs au devoir envers son prochain. Le Seigneur ne conteste pas sa prétention, car apparemment il avait été irréprochable quant à l'observation extérieure. Toutefois, il se trompait grandement en croyant qu'il pouvait avoir la vie éternelle en faisant le bien. Puisqu'il se plaçait sur ce terrain, Jésus le met tout de suite à l'épreuve, et là, le jeune homme échoue complètement. « Que me manque-t-il encore ? » demande-t-il alors, et la réponse a pour but de lui montrer qu'il lui manque la foi qui discerne la gloire de Jésus et qui, par conséquent, l'aurait amené à tout donner pour le suivre. Il s'est adressé à Jésus en disant « Bon maître !» Mais le Seigneur n'accepte pas l'épithète « bon » à moins qu'elle ne lui soit donnée par reconnaissance de sa divinité. Nul n'est bon sinon un seul, Dieu. De sorte que si Jésus n'était pas Dieu, il n'était pas bon. Si le jeune homme avait reconnu la divinité de celui qui lui disait « Suis-moi », ses grands biens auraient perdu leur valeur à ses yeux et il aurait suivi Jésus avec bonheur. Chacun de nous a-t-il reconnu la gloire de Jésus au point d'être libéré de l'amour des choses purement terrestres ? Le Seigneur montre alors à ses disciples la terrible emprise que les richesses de la terre ont sur le cœur humain. Un riche entre très difficilement dans le royaume des cieux. Parmi les Juifs, la richesse était considérée comme un signe de la faveur de Dieu. Aussi, cette parole bouleverse-t-elle les pensées des disciples et les étonne beaucoup. Il conclut que personne ne peut être sauvé si, pour les riches, c'est tellement difficile. Il s'ensuit une déclaration encore plus forte. Le salut est une chose non seulement difficile ou improbable pour l'homme, mais impossible. Seule l'intervention de la puissance de Dieu le rend possible. Nous pouvons résumer les versets 1 à 26 en disant que le Seigneur répand sa lumière sur le mariage, les enfants et les richesses, trois choses qui occupent une si grande place dans notre vie sur la terre. Et dans chacun des cas, la lumière qu'il donne renverse les pensées que les disciples avaient précédemment. Voir les versets 10, 13 et 25. Pierre revient sur les paroles du Seigneur pour demander une précision quant à la récompense offerte à ceux qui, comme lui, avaient suivi le Seigneur. La réponse établit clairement qu'il doit y avoir la régénération, c'est-à-dire un ordre de choses entièrement nouveau, lorsque le Fils de l'homme ne sera plus rejeté, mais sera assis sur le trône de sa gloire, et que les disciples seront aussi assis sur des trônes et investis de pouvoirs administratifs sur les 12 tribus d'Israël. Dans cette période, les saints jugeront le monde, et la place de prééminence spéciale réservée aux apôtres est indiquée ici. Le Seigneur ajoute que tous ceux qui auront renoncé aux relations et aux joies terrestres pour l'amour de son nom recevront 100 fois autant et hériteront de la vie éternelle. La vie que le jeune homme riche désirait, et qu'il n'a pas eue parce qu'il n'a pas suivi Christ, sera leur part. Le dernier verset du chapitre contient une parole d'avertissement. Plusieurs qui sont les premiers dans ce monde seront les derniers, et inversement, car les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres.